EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis le début de cette semaine, on a commencé à parler de la santé mentale. Oui, on ne parle pas de folie, on parle de la santé mentale. Et en tant que chrétien, il est important de savoir que le Seigneur nous a sauvés intégralement, esprit, âme et corps. Il est tout autant occupé et préoccupé par notre santé physique, notre santé spirituelle, que notre santé mentale aussi. On a démontré le deux jours passés que cette partie de nous, considérée comme l'âme, est souvent négligée, mais pourtant elle influence les deux autres parties, la partie physique visible de notre être et cette autre partie intérieure, spirituelle de notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du fait de la guérison divine et de l'accompagnement qu'il faut pour cela. Comment on peut marcher à la fois dans la foi que Dieu guérit, mais tout en utilisant la sagesse nécessaire? Parce que vous le savez bien, Dieu guérit, des fois même sans aucune prière de qui que ce soit, souverainement, bam, Dieu guérit. Il le guérit de foi instantanément ou alors à travers un processus. Comment maintenir cet équilibre dans un contexte de santé mentale qu'on veut retrouver, que Dieu guérisse quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la santé mentale, mais qu'on soit sage en même temps dans la façon dont cela se fait? Ça ne se fait peut-être pas instantanément, il y a un processus derrière. Comment on maintient l'équilibre entre ces deux-là? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je voudrais ici insister sur le fait que la prière de foi, la délivrance et les moyens humains qui sont utilisés ne sont pas censés aller en opposition. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit peut agir et guérir un malade qu'on doit ignorer les apports de la médecine. Souvent, j'ai vu beaucoup de ministres exercer dans le domaine de la guérison et une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est leur belle question qu'ils posaient à la personne malade. Qu'est-ce que les médecins ont dit? C'est important de savoir qu'est-ce que les médecins ont dit. Je me souviens une fois, j'ai prié pour quelqu'un qui était malade et je priais et la personne me disait là où elle avait mal et la maladie qu'elle avait. Mais je priais pour cette maladie plusieurs fois, mais la condition ne changeait pas. C'est après qu'on ait posé un tout autre diagnostic, il soit finalement allé à l'hôpital, qu'on ait en fin de compte nommé la maladie, c'est alors que j'ai prié pour lui et qu'il a été guéri. Vous imaginez ça? Je ne sais pas comment tout vous expliquer, mais ça ne va pas en opposition. La guérison divine, la puissance de la délivrance, ça ne va pas en opposition avec les apports de la médecine et les moyens médicaux, les moyens humains qui sont autour de nous. Ces deux choses ne devraient pas s'opposer. Alors, quand Dieu veut nous guérir, il peut utiliser l'une ou l'autre. Il peut utiliser directement sa puissance surnaturelle, instantanément au nom de Jésus, ou alors le processus humain progressif en utilisant des êtres humains. Dans tous les cas, Dieu utilise les êtres humains pour faire les deux. L'un pour imposer les mains et guérir par la puissance du Saint-Esprit, l'autre pour imposer les mains et guérir au moyen techniques, matériels qui sont sur la terre. La première chose que j'aimerais dire aujourd'hui est celle-ci. Dieu guérit aussi par des moyens ordinaires. C'est justement ça. Dieu guérit aussi par des moyens que nous considérons être ordinaires. Ce n'est pas parce que c'est Dieu que ce doit être parararara. Non. Justement, ça c'est une chose que j'aime beaucoup reprendre. Parce que dans le milieu chrétien, je ne sais pas comment on est arrivé là, mais dans le milieu chrétien, on aime beaucoup dire « surnaturel » pour parler de la puissance de Dieu et « naturel » pour parler des capacités de l'homme. Quand je lis la Bible, je trouve que ça peut être très dangereux de réfléchir comme ça. Pourquoi? Parce que, un, la nature a été faite par Dieu. Tout ce que vous appelez « naturel » n'est pas de l'ordre de l'humain. Ce n'est pas l'humain qui a créé la nature, l'humain lui-même fait partie de la nature que Dieu a créée. Quand c'est naturel, c'est déjà divin. Quand c'est dans la nature, c'est déjà l'œuvre de Dieu. Alors, si on va prendre des molécules actives dans les végétaux, dans les animaux ou dans les produits de synthèse, c'est déjà l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, si aujourd'hui quelqu'un réussit à faire une cabane avec du bois qu'il a pris dans la forêt, vous direz c'est une maison, c'est une œuvre humaine. Non, à la base, c'est déjà l'œuvre de Dieu. Parce qu'il a utilisé des bois qu'il a trouvé que Dieu a placé. Alors, je veux que vous puissiez commencer à ne jamais placer de l'opposition entre naturel et surnaturel. Dieu n'a pas besoin d'être surnaturel pour prouver qu'il est Dieu. Parce que la nature est déjà l'œuvre de ses propres mains. Quand il décide d'appliquer des lois divines que nous ne voyons pas dans la nature, c'est là que nous commençons à appeler ça surnaturel. C'est juste parce qu'il applique des lois qui ne sont pas restées à notre portée. Les lois qui ont créé l'univers ne sont pas dans l'univers. Tu viens de dire une phrase un peu complexe, pasteur Atom, tu veux nous embrouiller ou quoi? Non, je veux juste te dire que Dieu a parlé pour que tout ceci soit. À partir de ce moment-là, la terre ne continue pas cette façon de se former, de se multiplier, de se créer. On n'a pas de huitième, de neuvième, de douzième jour. Parce qu'il faut que la loi qui crée émane du créateur, celui qui établit le principe de la création. Donc, la nature est l'œuvre d'une loi au-dessus de la nature, d'une loi avant la nature, en dehors de la nature. On aime appeler ça surnaturel si on veut, mais ne considérons pas que naturel c'est bas, ce n'est pas Dieu. Non, ce qu'il y a dans la nature est fantastique et incroyable. Dernièrement, j'ai eu ma famille, on est allé voir mes enfants et moi-même ainsi que ma femme, nous sommes allés voir un parc aquatique. Nous sommes plutôt allés voir faire une visite aquatique comme ça là, où on allait voir des poissons dans tous les sens. J'ai vu des poissons que je n'ai jamais vus de toute ma vie. J'ai même vu des choses que je ne sais pas si ce sont des poissons. Mais ça vit dans l'eau. Ça n'a ni tête, ni queue, ni bras, mais c'est vivant. Mes amis, rien que la nature elle-même peut vous sembler surnaturelle. Rien que la nature elle-même peut vous sembler incroyable. Alors quand Dieu a besoin de guérir, il peut guérir, il guérit aussi par de moyens que nous, les humains, considérons ordinaires. Un exemple fort. Souvenez-vous de Jésus, ce que Jésus a fait. Jésus veut guérir un malade, un aveugle. Il prend la boue, n'est-ce pas? Il prend le sable, il mélange avec sa salive, il fait une boue. Il prend des choses dans la nature et il opère dans une loi qui dépasse la nature et fixe le problème de la nature, qui sont la guérison. Vous devez savoir une chose, mes bien-aimés, c'est que les miraculeux peuvent passer par l'ordinaire. Ça peut être « wow », mais les éléments de base ont été juste ordinaires. Combien de fois je n'ai pas dû faire une chose où Dieu m'a juste dit « prends de l'eau, donne ». Je prends de l'eau, je donne, la personne boit, et ça va. Le problème est réglé, on a tenté, on a tout fait, on a fait la radio, mais la personne a bu de l'eau. J'ai rien ajouté. Il n'y a pas eu de position bizarre, j'ai pas imposé les mains, je n'ai pas crié. La personne a bu de l'eau et le problème a été complètement fixé. Pour que Dieu agisse et guérisse, il n'a pas nécessairement besoin que ce soit quelque chose qui étonne nos yeux. Il peut utiliser les moyens ordinaires. Deux Rois, chapitre 20, verset 7. Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on en prit. Et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Hein? Waouh! Mes amis, c'est le prophète Ésaïe, au sujet du roi Ézéchias. Il est malade. Et le prophète dit, voici l'ordre de Dieu, voici ce que le Seigneur dit. Prenez une masse de figues. Waouh! L'ordre est divin pour exécuter au niveau naturel. Si on savait nous-mêmes qu'il fallait juste prendre cette masse des figues, mettre là sur son bras, si cette information nous était devenue disponible pour toujours, on allait tout de suite reléguer ça sur le plan de la science, la connaissance humaine, et au moment de l'appliquer, on va avoir l'impression qu'elle n'est pas divine. Vous voyez? C'est ça en fait. Dieu a permis aux hommes de se rendre compte que dans la nature, les éléments pour les guérir étaient déjà disponibles. Il ira juste donner surnaturellement l'information, si on doit utiliser le mot surnaturel, l'information ou la révélation pour qu'il mélange des éléments qui sont déjà dans la nature. Une fois qu'on a cette connaissance-là, et on peut maintenant prédire que chaque fois qu'on a des nouvelles situations comme ça, on peut utiliser cette plante pour guérir des ulcères comme ça, on considère que cette information est maintenant devenue information prédictible, elle devient empirique, on dit, on met ça du côté de la science, c'est devenu de la médecine. Nous, malheureusement, enfants de Dieu, erreur que nous commettons, on se dit, ça, c'est devenu humain, je dois aller chercher le divin. Waouh! Pourtant, c'est Dieu qui est à la base, c'est Dieu qui est à la base de toutes ces informations, c'est lui qui a créé toutes ces choses. 1 Timothée chapitre 5, verset 23 dit, « Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Paul reconnaît le problème de santé qu'a Timothée. Et il lui fait une instruction, ce qu'on appellerait ici des recettes de grand-mère, mais il lui dit, ça, voici mon instruction, voici une chose qui marche. Ne te limite pas dans tes boissons à boire que de l'eau pour tes problèmes physiques, tes problèmes au niveau de l'estomac, tu as besoin de prendre, d'ajouter à cela du vin. Quand nous, on comprend comment ça fonctionne, on dit, bon, c'est de l'alcool, on va mettre ça sur nos peaux, on va mettre ça quand la blessure est extérieure, ça va, ça se comprend. On a tendance, malheureusement, nous, enfants de Dieu, à exclure beaucoup des moyens que Dieu a déjà rendus disponibles parce que nous sommes en quête de l'extraordinaire. J'aimerais vous dire que dans l'ordinaire, Dieu est miraculeux. Dieu est miraculeusement ordinaire. Dieu fait des choses incroyables tous les jours. Mais nous, puisqu'on n'est pas frappé par le « wow », on dit « ah, ça, c'est pas grave ». Moi, je veux un truc qui va m'intimider. Dieu peut guérir et guérit aussi, et même très souvent, par des moyens ordinaires. Je ne sais pas ce que votre voisin, votre frère, votre ami, votre membre de famille a comme problème de santé mentale, mais vous pouvez l'amener chez des personnes qui ont reçu la connaissance, qui ont collecté les informations pour fixer ce type de problème. Même si vous sentez au fond de vous, non, ça peut être démoniaque ça. C'est pas un problème. Même si vous sentez au fond de vous, non, je peux lui imposer les mains. C'est pas un problème. C'est comme la même manière quand vous avez quelqu'un qui est blessé ou qui a une fracture. Qu'est-ce que vous faites? Vous courez vite. Vous l'amenez à l'hôpital. Mais vous sentez que vous pouvez aussi prier pour lui, qu'il pouvait être guéri, non? Ses os pouvaient être corrigés. Cette blessure pouvait être fermée. Mais pourquoi le réflexe quand le problème touche le corps? On a tout de suite confiance que l'être humain peut poser les actes appropriés pour pouvoir apporter quelque chose. Et quand ça touche l'âme, on se dit, je pense pas que l'humain ait les capacités pour ça. Non. Quand quelqu'un a un problème de santé mentale, ça ne veut pas dire que le psychologue ou la personne qui va l'aider va toucher à son salut. Non. Il va pas l'amener à la foi, il va pas l'amener à l'éternité. Non. Il va certainement l'aider à retrouver un équilibre. Deuxième chose. La prière de foi et l'onction. C'est un commandement, pas un slogan. La Bible nous recommande de faire une prière de foi et dans certains contextes, de oindre d'huile. Ce sont des commandements et ce n'est pas un slogan. C'est pas juste à dire, ah, la Bible dit la prière de foi guérira les malades. Non, la prière de foi guérit vraiment les malades. Ah, la Bible dit, oignez-lui d'huile, si quelqu'un est malade, appelez les anciens qui le oignent d'huile, la prière de foi. Non, oindre vraiment d'huile est un commandement divin pour apporter guérison. Vous avez reçu une prescription médicale. Le médecin vous dit, prenez ça chaque matin avant de manger. Si vous avez déjà mangé, vous dites, j'ai raté, c'était l'heure de prendre le médicament, je peux plus le prendre, je viens de manger. Vous suivez à la lettre, à l'instruction, pour voir votre guérison. Et vous savez que si finalement vous sautez les heures prévues pour prendre ces médicaments au bout d'une semaine, si rien n'a marché, vous savez que ça n'a pas marché parce que je n'ai pas respecté la prescription. Il y a une prescription pour poser physiquement des gestes qui touchent le corps, la santé physique et la santé émotionnelle, la santé spirituelle. Quelqu'un est malade, la Bible propose, oignez d'huile, imposez les mains, et la prière de la foi guérira les malades. Jacques chapitre 5, versets 14 à 16. Je crois que vous avez pensé à ça tout de suite. Jacques 5, 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Waouh ! J'aime ce texte parce que, quoique à l'entrée, dans le texte, on voit qu'il s'agit d'un problème de guérison physique, d'une maladie dont les symptômes sont physiques, mais on voit que dans le traitement de cette maladie, on tient à ce que les sources soient connues. L'auteur sous-entend qu'il peut y avoir de sources d'origine, je vais dire, mentale et d'origine de culpabilité. Il dit, par exemple, si la personne a commis un péché, cela lui sera pardonné. Et après, il insiste de se confesser les péchés les uns les autres. Il considère le péché, vous le savez, dans le judaïsme, c'était très considéré, et dans la foi aussi chrétienne, que le péché peut être la source d'une maladie physique. Jésus a guéri des personnes en les pardonnant seulement de leurs péchés. Or, le péché est l'action qu'ils ont posée, la culpabilité de leur faute et au niveau de leur âme. Mais en accordant pardon, en libérant de cette culpabilité, la personne est libérée physiquement. Frères et sœurs, la prière de la foi, oindre d'huile, faire prier avec foi, ça a de l'efficacité. Nous prions avec foi et Dieu agit avec sagesse. Nous, on n'a qu'à lui faire confiance. Et lui, il sait de quelle manière il va faire pour glorifier son nom. Mes amis, on a quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la famille, vous sentez qu'il est devenu déséquilibré, vous avez des signes de dépression. N'allez pas juste le dire, je sens que toi t'es déprimé, hein. Non, non. Priez avec lui, avec foi. Si vous faites confiance à Dieu, Dieu agira avec sagesse. Et si vous le sentez dans votre cœur, n'hésitez pas de prier avec onction d'huile, en lui oignant d'huile, et priez pour lui. De la même manière, il a des cachets à prendre, de la même manière, nous avons des cachets spirituels, des actes physiques que Dieu nous a demandé de poser qui accompagnent la guérison. Oignez-le sur le faux, priez pour lui. Imposez les mains avec foi. Faites confiance à Dieu. De la même manière que vous faites confiance à ce molécule que vous êtes allé chercher dans la pharmacie quand c'est le moment de prière, faites confiance à Dieu. La prière à sa part. Marc chapitre 16, versets 17 à 18, il est écrit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est une promesse qui sont des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, mon frère, ma sœur, si vous avez quelqu'un qui a un problème de santé mentale, la prière a une grande efficacité. Troisièmement, voici une troisième leçon. Je tente d'établir ici à la fois de l'équilibre entre la part de ce que Dieu a déjà mis ordinairement au milieu de nous, les médecins, tous ces autres apports que Dieu a déjà rendus disponibles, et la part de la prière. Ces deux choses n'ont pas besoin de s'y contredire. Faisons chacune de ces choses à 100% en y donnant la concentration nécessaire. Troisième vérité, le miracle peut être instantané ou un chemin ou un processus. Le miracle peut être là, du coup, alléluia, ou tout un processus. Pasteur, pourquoi? Je pense que Dieu se révèle dans le processus. C'est Dieu qui sait dans quel meilleur état il peut se glorifier dans une personne. C'est lui qui le sait. Quelques guérisons sont, boum, instantanées. D'autres prennent une année, d'autres prennent 2 ans, d'autres prennent 10 ans. On aurait bien voulu que non. Mais je ne sais pas le justifier, lui. Lui, il dit, il trouve un moyen de se glorifier, lui, le Seigneur. Il trouve un moyen d'apprendre des choses, de rapprocher cette personne de lui et de travailler sur son éternité. Croyez-moi, vaut mieux encore 5 ans. On a l'impression qu'on est comme, on vit une vie qui est presque pas utile. C'est dur, je vous assure, je vais même pas oser le souhaiter à qui que ce soit. Mais à comparer avec l'éternité, je vous assure que ce n'est pas cher payé. J'aime quand Paul, en essayant d'édifier les frères, il dit, j'estime que les souffrances présentes n'ont aucune commune mesure avec la gloire à venir. La persévérance n'est pas l'absence de des miracles, mes amis. C'en est plutôt le chemin. Quand on persévère, ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Ça veut plutôt dire qu'on est justement dans le chemin de l'action de Dieu. Alors, je vous encourage. Vous avez déjà amené cet enfant, ce frère, cette sœur à voir des médecins. Vous avez été dans tel pays, dans tel autre pays. Vous avez l'impression que cet enfant, qu'est-ce qui se passe? C'est un problème mental. Pasteur, on a prié, on l'a amené dans des services, mais l'enfant, il est toujours comme ça. Peut-être que vous le remarquez pas. Mais jusqu'au sixième jour, jusqu'au septième jour, la sixième fois, les murs de Jéricho n'avaient pas eu nécessairement de fissures. Mais au septième jour, à la septième fois, les murs étaient tombés. J'aimerais vous encourager à persévérer. La persévérance fait partie du processus de miracle. Ce n'est pas au bout de la persévérance que viendra le miracle. Le fait de continuer à croire, le fait de continuer à être déterminé, c'est déjà ça un grand miracle. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Waouh ! Paul décrit les champs de choses par lesquelles il passe dans sa santé, à cause de la mission, à cause de l'œuvre de Dieu. Il précédemment, plutôt dans le verset 8, il dit qu'il a fait une prière à Dieu et pour le ôter cela. Et Dieu dit, en fait, ma grâce te suffit. Ça va aller. Je sais comment continuer à opérer en toi pendant que tu as quelque chose de gênant, quelque chose que tu considères être gênant. 2 Timothée 4, 20. Eraste est resté à Corinthe. Je l'ai laissé Trophime, malade à Milet. Paul est en train de parler de la situation du frère Trophile. Il dit, Trophile est malade à Milet. Paul, mais c'est pas toi qui guéris les malades et qui transforme les vies des gens. Toi, tu imposes les mains, les gens sont guéris. Tu parles d'un frère qui est malade comme ça et c'est juste comme ça. Tu devais dire que les autres n'ont pas de foi. Comment ils laissent Trophime être malade? Mais ce sont des situations claires, des situations réelles. Croyez-le-moi, mes amis, les apôtres à leur époque n'ont pas non plus guéri tous les malades. Il n'y avait pas une petite situation de malade, ils imposent la main, la personne est guérie. Non. Il y avait des situations où ils recommandaient de prendre pas seulement de l'eau, mais du vin. Il y avait des situations où ils laissaient l'ordinaire se faire de façon extraordinaire. Il y avait des situations où les gens étaient guéris instantanément. Mais là, c'est lui-même Paul qui, dans sa propre chair, dit que Dieu lui dit, tu vas souffrir encore, c'est pour ma gloire. Et il a des situations, des frères qui souffrent. Et ce n'est pas de la guérison qu'il parle ici. Dieu peut le faire instantanément, mes amis. Mais ça peut aussi être un processus par lequel il vous apprend à prier. Il réunit votre famille. Il maintient votre mariage. Ne regardez pas comment simplement vous souffrez. Regardez qu'est-ce que Dieu vous apprend. Oh, pasteur, c'est facile à dire, mon frère, ma sœur, vous qui m'écoutez et qui me regardez. Je sais que cette parole est si, je veux dire, elle sort de la bouche d'un inconscient, de quelqu'un qui ne vit pas dans votre situation. Mais je suis juste en train de vous répéter la vérité telle qu'elle est. Elle n'a rien à voir avec moi. Elle n'a rien à voir avec mon expérience personnelle. Elle est vraie. Il y a de l'espoir pour tous qui vivent. Et derrière les leçons les plus complexes que celles des Job, il y a un Dieu qui peut trouver une façon d'obtenir sa gloire. Tu vas te dire, dans quoi il va se glorifier? Dans ça, je ne vois pas. Un jour, on le regardera dans les yeux et on pleurera comme des enfants. On lui dira, Seigneur, merci parce que tu m'aimes. On comprendra alors de quoi lui il parlait. Le quatrième point dit ceci. Délivrance et guérison intérieure. Il faut à la fois discerner sans tout diaboliser. On croit à la guérison, la délivrance des gens des esprits mauvais. Mais on croit aussi à la guérison intérieure. Je vous en supplie, ne diabolisez pas tout. Souvent, nous sommes dans des conditions des personnes qui souffrent mentalement. Et on regarde la situation, on dit, ça, c'est que des esprits mauvais. Il faut chercher une, je crois que ce sont des esprits mauvais qui te dérangent. Il faut qu'on ait été délivré. On a crié sur lui, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est même peut-être tombé. Il rentre à la maison. On voit la même situation reprendre. L'esprit révèle la racine. Elle peut être parfois spirituelle, mais parfois psychique aussi, ou même des fois les deux. quelqu'un est guéri d'un esprit mauvais, mais il faut alors lui réapprendre. Et la personne peut être délivrée d'un esprit mauvais, il faut lui réapprendre les bonnes habitudes au milieu des êtres humains. Ce n'est pas obligé d'être toujours l'un ou l'autre. Ça peut être les deux. On peut donc mettre les deux moyens en action. Il suffit de discerner. N'accordez pas les symptômes physiques à toujours des esprits mauvais. Ne vous dites pas, il est en train de réagir comme ça, ça doit être un esprit. Mes amis, il y a l'esprit humain lui-même qui peut vous jouer des tours dont vous n'avez pas idée. L'être humain lui-même peut, l'être humain est l'esprit le plus dangereux dans un sens. Dans le sens où il peut feindre d'être Dieu, il peut feindre d'être Satan, il peut même feindre d'être un autre être humain. Dieu ne va pas feindre d'être Satan. Donc l'être humain peut vous faire passer plus de temps dans une délivrance que quoi que ce soit d'autre. Alors, sachez-le bien, délivrance, alléluia, guérison intérieure, amen. Il faut croire les deux. Il y a l'œuvre de l'esprit sur l'esprit et il y a l'œuvre de l'âme sur l'âme. Deux fois, quelqu'un est guéri, mais on doit parler de ce qui se passe au niveau émotionnel et psychologique. Et c'est pas toujours les églises qui ont le meilleur moyen, le meilleur système pour pouvoir accompagner telle personne. Quelqu'un est guéri, alléluia, elle avait les démons étaient là, les esprits mauvais sont partis, mais il s'était fait des entailles, il a des blessures. Les démons partent, les blessures ne sèchent pas. Vous faites quoi? Vous l'amenez à l'hôpital, n'est-ce pas, pour qu'on puisse guérir ces blessures-là. Ça va pas se guérir instantanément. Et ça arrive aussi que ces blessures-là, ça plutôt au niveau de l'âme et non pas de l'esprit. Luc 8, 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle était sorti sept démons. Vous voyez? Délivré. Mais ils ont continué à rester avec lui. Psaume 147, verset 3. La Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Dieu guérit aussi les cœurs, pas seulement le corps, mes amis. Alors, cinquièmement, pour finir aujourd'hui. Marcher par la foi. Et n'est pas tenté Dieu. Mélangez ces deux choses. D'un côté, marchez par la foi et ne tentez pas Dieu. À la fois, nous croyons que Dieu est capable de guérir les malades. On reste dans cette foi. Mais ne forcez pas la main de Dieu pour pouvoir comme lui dire, Dieu, parce que je crois que tu peux guérir les malades, je fais ça alors pour que tu puisses te guérir. Le diable a tenté ça avec Jésus. Vous vous souvenez? Je voulais lire tout à l'heure. Mais lisons d'abord Proverbes 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera tes sentiers. Ne te fie pas sur ta propre sagesse. Fais confiance à Dieu. Donc, marche par la foi. Matthieu chapitre 4, verset 7. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable vient et dit à Jésus, saute. Il est écrit que voilà... Ils te rattraperont. Il ne permettra pas que ton pied ne heurte le sol. Les anges vont te rattraper. Jésus le regarde, il dit non. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Je sais que beaucoup de chrétiens, quand ils lisent ces textes, ils ont l'impression que le diable, Jésus est en train de dire au diable, tu ne me tenteras pas. Non, c'est pas ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire, l'acte que tu me demandes de poser est une tentation vis-à-vis de Dieu. Ça signifie quoi? Une bonne traduction dit, tu ne forceras pas la main de l'Éternel ton Dieu. Il lui dit, saute, comme ça, les anges qui sont pourvus vont t'attraper. Elle dit, le texte ne dit pas ça. Le texte dit, si je suis en condition de tomber, ils vont me rattraper. Je ne veux pas, parce que je sais que je vais avoir un secours, me mettre en danger. Ne mettez pas votre membre de famille en danger parce que vous croyez à la guérison. Non. Ne vous mettez pas vous-même en danger parce que vous croyez à la guérison. Si vous croyez que Dieu va vous guérir, prenez votre médicament. Et vous verrez au moment opportun, j'ai vu des gens prendre des doses de médicaments et puis ils font une crise. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils vont à l'hôpital, l'hôpital dit non. Vous ne pouvez plus prendre cette dose. On ne sait pas ce qui se passe, mais ça c'est trop fort. Il faut qu'on baisse. Quelques mois après, on a baissé. Quelques mois, jusqu'à ce que ça disparaît, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en toi? Mes amis, laissez les hommes voir que Dieu est puissant. Ne tentez pas la main de Dieu. Ne ridiculisez pas Dieu en ayant voulu forcer sa main. Dieu sait quelle méthode il choisit. Pour moi, j'ai choisi de vous voir demain pour continuer tout ça. Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.